Il est 7h sur France Culture, je vous souhaite un très bon réveil. Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quelle coalition pour diriger l'Autriche? Le parti conservateur est sorti vainqueur des législatives hier, mais l'extrême droite ne le soutient plus. Le FPE est en net recul par rapport aux dernières élections.
Les conservateurs britanniques, eux, ont un autre souci, réaliser le Brexit prévu dans un mois. En attendant, les agriculteurs irlandais prennent leurs précautions. Reportage d'Emeline Vin.
Un deuil national pour Jacques Chirac aujourd'hui après un hommage populaire. 115 personnalités du monde entier salueront sa mémoire ce midi en l'église Saint-Sulpice à Paris. L'ancien président de la République est mort jeudi. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Dans une dizaine de minutes, Margot, balance ton port. La condamnation de Sandra Müller va-t-elle entraver la libération de la parole des femmes? Je poserai la question à Rebecca Amselem, elle est fondatrice de la newsletter Les Glorieuses.
Le parti conservateur a remporté hier les élections législatives anticipées en Autriche avec environ 37% des voix. Mais avec qui va-t-il gouverner? Il est désormais privé du soutien de l'extrême droite. Le FPE, fragilisé par un scandale de corruption, a terminé troisième en forte baisse par rapport au précédent scrutin. La coalition des deux partis ne tient plus. Reportage hier au QG du FPE auprès de militants déçus mais pas désespérés. Isorias.
Bière en abondance et musique traditionnelle sont là pour faire oublier aux militants un score décevant, la conséquence des nombreux scandales qui ont embarrassé l'extrême droite ces derniers mois. L'Ibiza Gate bien sûr, mais aussi plus récemment les soupçons de détournement de fonds au sein du parti. Michael, fidèle électeur du FPE, ne cache pas son amertume.
Je suis déçu. Je pensais qu'on pouvait atteindre 20%. Je crois que la base électorale est restée, mais que beaucoup d'électeurs qui avaient sans doute voté FPO aux dernières élections ont voté cette fois-ci pour les conservateurs.
Le nouveau chef du FPE, Norbert Hofer, arrive sur scène, visiblement fatigué. Il remercie les militants et promet des jours meilleurs. Siegfried, 60 ans, l'espère. Selon lui, c'est en retournant dans l'opposition que le parti deviendra plus fort.
Nous connaissons bien l'opposition. Nous savons que nous y sommes forts et que personne alors ne peut nous atteindre. Nous allons nous reconstruire peu à peu et à l'avenir, nous redeviendrons numéro un.
Une vision partagée par Norbert Hofer qui a reconnu qu'avec un tel score, le plus faible du FPE depuis 2006, négocier une nouvelle coalition avec les conservateurs serait difficile.
Et le leader des conservateurs autrichiens, Sébastien Kurz, pourrait bien redevenir chancelier après des négociations qui s'annoncent longues. Des complications politiques chez les conservateurs britanniques, cette fois à un mois de la date prévue du Brexit. Les Tories sont réunis en congrès jusqu'à mercredi pour tenter de trouver une position commune sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une rupture qui pourrait être lourde de conséquences. En Irlande, des agriculteurs s'inquiètent d'un rétablissement d'une frontière qui serait désastreuse pour leur production. Emeline Vin les a rencontrés pour France Culture.
Dans l'ouest de l'Irlande, John Clark élève des bœufs Shorthorn, une race à viande à la robe marron chocolat. En prévision des années post-Brexit, il a pris des précautions.
J'ai déjà vendu tous les animaux que je voulais vendre. D'habitude, j'attends les ventes de fin d'année. Mais là, je m'y suis pris plus tôt pour m'assurer une rentrée d'argent et me couvrir si besoin.
Tous ses collègues ne sont pas aussi prévoyants. PJ Kelly, un ami éleveur de vaches reproductrices, n'a pas voulu s'alarmer plus que de raison.
C'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On a fait tout ce qu'on a pu. Mais ce sera pas encore assez. En ce moment, les agriculteurs n'arrivent pas à couvrir leurs coûts de production. Si en plus, il y a des droits de douane, on devra payer pour vendre en Angleterre.
À la mi-septembre, la Banque centrale irlandaise a indiqué qu'en cas de Brexit sans accord, un agriculteur sur trois devrait mettre la clé sous la porte en Irlande. Edmund Phelan dirige l'association des éleveurs ovins et bovins. Il entend au quotidien les inquiétudes.
Pendant 700 ans, nous avons toujours eu des liens avec le Royaume-Uni. Ça n'a pas toujours été de très bonnes relations, mais ils ont toujours été notre principal partenaire commercial. Les douanes vont tout rendre compliqué.
Selon le président, les agriculteurs ne peuvent de toute façon pas vraiment se préparer au Brexit.
Le danger, c'est qu'il n'y ait plus de marché pour l'exporter. Les rayons européens vont être inondés de viande irlandaise. Ça va faire chuter le prix pour tous les agriculteurs européens. Si le Royaume-Uni accepte l'accord du backstop et l'idée d'une zone économique pour toute l'Irlande, alors on pourra voir le bout du tunnel.
Un espoir pour les agriculteurs, une aide d'urgence de la part de l'Union européenne.
L'Union européenne qui se cherche des commissaires. 26 ont été proposés par les États membres. Encore faut-il qu'ils soient adoubés par les parlementaires. Deux candidats, l'une roumaine, l'autre hongroise, sont déjà sur la sellette à cause de conflits d'intérêts présumés. Les auditions commencent aujourd'hui et s'annoncent mouvementées également pour la candidate française, Sylvie Goulard. L'ex-ministre des Armées est visée par deux enquêtes pour des soupçons d'emploi fictif. Angélique Boin.
Le tir au pigeon va-t-il se poursuivre ? S'interroge, sans ironie, un bon connaisseur de cette procédure complexe et finalement moins transparente qu'annoncée. Jeudi dernier, énorme surprise, après analyse des déclarations d'intérêt des candidats, les nominations de Rovana Plump et de Laszlo Trocsányi ont été suspendues dans l'attente de clarifications attendues dans la journée. La social-démocrate roumaine, déjà controversée, se voit reprocher des prêts douteux dans son pays. Pour le hongrois, le conflit d'intérêt a été plus dur à prouver, selon plusieurs sources, et le vote à huis clos très serré, une mise à l'écart plus politique. Un simple changement de portefeuille pourrait bien sauver sa tête, car le futur commissaire à l'élargissement, ex-ministre de la Justice de Viktor Orban, a mené des réformes jugées attentatoires aux libertés dans son pays. Or, il devra vérifier que les pays candidats respectent bien les droits fondamentaux. C'est absurde, reconnaît bien volontiers un élu de son bord politique, la droite. Un de chute à gauche, un autre bousculé, voire écarté, à droite. Ce n'est pas bon du tout pour la Française Sylvie Goulard, présentée par l'Élysée et soutenue par les centristes. Plombée par deux affaires, celle de l'emploi présumé fictif d'un assistant parlementaire et ses liens anciens avec une fondation américaine, la candidate au portefeuille du marché intérieur et de l'industrie passera sans doute par représailles. Un sale quart d'heure persifle plusieurs nouveaux élus croisés dans les couloirs du Parlement. Chaque famille politique montre les muscles avant les auditions, c'est classique, relativise un eurodéputé plus ancien, convaincu qu'un accord sera finalement trouvé entre les présidents des groupes politiques et Ursula von der Leyen, la future patronne de la Commission.
Un incendie dans un camp de réfugiés surpeuplé a fait au moins 2 morts hier à Moria sur l'île grecque de Lesbos. Des émeutes ont ensuite éclaté. Camille Magnard nous en parlera dans sa revue de presse internationale à 7h35.
Vous écoutez France Culture, il est 7h07, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Ce n'est pas tous les jours qu'on dit adieu à un président de la République. Alors en hommage à Jacques Chirac, les Invalides sont restés ouverts toute la nuit.
Les portes du monument parisien se referment à l'instant, juste après le passage matinal du Premier ministre Édouard Philippe. Fin d'un hommage populaire voulu par la famille de l'ancien chef de l'État, mort jeudi à 86 ans. Parmi les milliers d'anonymes qui se sont déplacés et qui ont parfois fait la queue pendant 6 heures avant de pouvoir se recueillir sur le cercueil, il y avait Virginie.
Oui, c'est une émotion très forte. C'est dire au revoir à quelqu'un de notre famille, quelque part. C'est troublant. Ça a été, oui, le président quand j'étais jeune. C'était celui qui m'a donné envie de faire des études en sciences politiques, de m'engager au RPR, puis ensuite à l'UMP. J'ai été sur ses terres en Corrèze. Voilà, il y a beaucoup de liens familiaux. Je l'ai rencontré à 8 reprises. C'est un homme exceptionnel, vraiment exceptionnel.
Place désormais à une journée de deuil national. Après une cérémonie familiale ce matin, un service solennel sera rendu ce midi en l'église Saint-Sulpice, toujours à Paris. Emmanuel Macron, de nombreux autres chefs d'État et d'anciens dirigeants du monde entier seront présents. Pareil honneur avait été réservé aux 3 précédents présidents français disparus, Anne Fauquemberg.
Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand, 3 présidents dont les hommages solennels avaient été organisés à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le monument historique étant en travaux, ce ne sera pas possible pour Jacques Chirac, mais à n'en pas douter, la foule sera immense autour de l'église Saint-Sulpice. Le 12 novembre 1970, 3 jours après la mort de Charles de Gaulle, 70 000 personnes s'étaient réunies sur le parvis de Notre-Dame. À l'intérieur de la cathédrale, pour la messe solennelle de Requiem, le monde entier, l'Américain Nixon, le Shah d'Iran, l'Indienne Indira Gandhi ou encore le prince Charles d'Angleterre. Une cérémonie qui se tient en l'absence du cercueil du fondateur de la Ve République. Les obsèques sont organisées à Colombey-les-Deux-Églises où il sera inhumé dans l'intimité. Georges Pompidou avait aussi donné consigne de simplicité. Le 6 avril 1974, l'archevêque de Paris célèbre donc une messe sans mitre ni crosse. Le cercueil est absent, l'inhumation a lieu à Orvilliers dans les Yvelines, ni couronne, ni fleurs. couleur, une simple dalle de pierre, comme le président l'avait demandé. Et puis en 1996, alors que les hommages citoyens se multiplient depuis 3 jours et la mort de François Mitterrand, Jacques Chirac, fraîchement élu, est au premier rang le 11 janvier pour la cérémonie à Notre-Dame. Sur les images d'archives, on voit l'Allemand Helmut Kohl en larmes, les visages du Palestinien Arafat et du Cubain Fidel Castro. Mais le cercueil du président socialiste n'est toujours pas là, il est à Jarnac, aux obsèques familiales. Ce lundi donc, pour la première fois, la dépouille du président défunt sera présente et Jacques Chirac sera le premier chef d'État de la Ve République à être enterré à Paris.
Les établissements scolaires vont rouvrir ce matin à Rouen. Ils étaient fermés depuis jeudi et l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, un site classé Céveso. Le gouvernement promet la transparence totale alors que les habitants redoutent une éventuelle catastrophe sanitaire et environnementale. Le lait, le miel collecté et les œufs d'élevage en plein air pondus depuis jeudi sont consignés jusqu'à l'obtention de garanties sanitaires. On y reviendra plus en détail dans le journal de 8h. Vous avez peut-être des podcasts de France Culture ou autres téléchargés dans votre ordinateur et votre téléphone. Le marché est en plein essor. Disponible à la demande sur le web, le podcast a même sa propre journée internationale. Et c'est aujourd'hui, véritable nouvelle manière de raconter l'information ou simple suivisme, élément de réponse avec Diane Berger.
Récits de témoignages, débats sur des sujets atypiques, reportages long format, fiction. Les créateurs de podcasts réinventent les formats sonores. Et pour Pierre Cerisier, organisateur du Paris Podcast Festival, événement de référence dans le milieu en France, c'est comme une nouvelle frontière à explorer.
Il y a une sorte de foisonnement qui est assez jubilatoire et qu'on voit arriver de nouveaux talents à écrire pour le podcast, qui sont des formidables raconteurs d'histoires et qui nous emmènent dans des mondes qu'on ne connaissait pas, des endroits que personne ne prenait en charge. Parmi ce bouillonnement, on y trouve des choses vraiment formidables et inattendues.
Et aujourd'hui, à côté des créateurs indépendants, on retrouve de plus en plus de médias, y compris des journaux de presse écrite. Une stratégie très pragmatique, selon le sociologue Jean-Marie Charon.
On est dans une période très très particulière de la transformation des médias face à un effondrement des modèles économiques de la presse écrite. Et dans cette phase-là, il y a une espèce d'impératif d'innovation, de recherche et de transformation des registres. Les deux terrains sur lesquels s'avancent ces rédactions, c'est la vidéo depuis déjà quelques années et puis l'audio depuis plus récemment.
Mais le sociologue s'interroge, le secteur du podcast pourrait être bientôt saturé par l'offre et son modèle économique reste fragile.
Et vous pouvez retrouver sur franceculture.fr 2 podcasts originaux, Les passagers du Bosphore, un voyage sonore immersif et Projet Orlov, une série d'espionnage dans les années 80. Une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest de la France. Le temps sera encore pluvieux dans cette région. En revanche, vous aurez du soleil dans le sud-ouest et le sud-est. Les températures cet après-midi, 20 degrés attendus à Paris et La Rochelle, 17 à Cherbourg, 27 à Perpignan et Marseille, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.